Je vais vous proposer de parler donc sur ce qu'on appelle la révolte de Masaniello, que j'appelle plus largement la révolution napolitaine de 1647-1648. Généralement, dans les révoltes, dans les révolutions, l'historien d'Ancien Régime, qui travaille sur l'Ancien Régime, possède peu de représentations figurées des révoltés. Surtout lorsque ces révoltés sont membres de ce qu'on appelle la plèbe, en italien on emploie encore le terme de plèbe, de petit peuple, on dirait en français, ou d'une manière péjorative de populace. La plupart du temps, on a peu de représentations, surtout lorsque les mouvements de révolte ou de révolution ont été écrasés par le pouvoir en place. Eh bien, généralement, on élimine lorsqu'on reprend le pouvoir, lorsque les pouvoirs monarchiques écrasent les révoltes, on élimine toute trace du mouvement de contestation. Les autorités détruisent soit les archives, soit les témoignages, soit les livres. Les témoignages ne sont pas publiés, etc. Il existe des exceptions, et je pense à quelques rares exceptions dans le mouvement de révolte qui ont des représentations. Je pense à la Fronde, où on voit qu'il existe effectivement beaucoup de textes, beaucoup de témoignages, particulièrement les Mazarinades. Je pense que tout le monde connaît ces textes-là. Plus de 2000 documents pamphlétaires à type relevant du genre de la lutte politique. Pour Naples, il y a, pour Naples en 1647-48, il y a une telle documentation écrite, littéraire, descriptive, des récits, d'une abondance assez étonnante. Rien que pour Naples, un historien napolitain, Saverio Di Franco, a dénombré 270 manuscrits conservés à Naples sur la révolte. Pour ma part, je suis parti la semaine dernière en Espagne, à Medina Sidonia, à San Lucas de Barrameda, héritier d'une grande famille, les Villafranca, qui était vice-roi du royaume de Naples ou de Sicile. Et comme par hasard, j'ai découvert une bonne vingtaine de documents, dont un livre de 500 pages, manuscrit, strictement inconnu de moi et de Saverio Di Franco, relatant cette révolte. Donc on a une abondance littéraire qui est assez étonnante pour Naples, abondance qu'on retrouve pour la Fronde, mais la Fronde c'est beaucoup plus léger. Les Mazarinades sont des pasquins, c'est assez réduit, entre 2 et 8 pages. Là on a des mémoires qui souvent atteignent la centaine, voire plus, au niveau du nombre de pages. Plus étonnant, me semble-t-il, pour Naples, c'est pour la révolution napolitaine de 1647-48, c'est qu'à cette abondance littéraire se joint aussi une relative abondance iconographique. Alors évidemment, dans notre société, on est habitué à voir de l'image partout. Certes, il n'y a pas la télévision ni l'appareil photo partout. En revanche, on a nombre d'images qui ont été peintes, gravées, diffusées durant l'époque. L'exemple, c'est la peinture qu'on a derrière nous, qui est une peinture de Domenico Gargiulo, je reviendrai dessus, qu'on appelle aussi Mico Spadaro, qui intitule sa peinture La révolte de Masaniello. Et on a ici Masaniello au centre, sur son petit cheval blanc, et on voit bien que c'est Naples, puisqu'il y a le Vésuve, mais je reparlerai pour tout ça pour l'explication. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que l'image donc, est très très présente dans cette révolte napolitaine, et que l'image s'immisce dans des lieux où on ne s'y attend pas. Bien entendu, l'image existe en tant que peintre, quoi, bien entendu. C'est pas si évident que ça. Vous trouvez des peintures à la Fronde, je crois qu'il y en a une qui décrit la paix de Rueil, si je ne me trompe pas, mais il n'y en a pas beaucoup d'autres, j'en connais qu'une pour ma part. On a bien entendu la peinture, mais on a aussi d'autres canaux d'expression iconographique, en particulier les textes, que ce soit des textes imprimés, où on retrouve des frontispices, par exemple, en nombre non négligeable, ou même à l'intérieur même des manuscrits. On lit un manuscrit de 400-500 pages relatant la révolte de Naples par un témoin qui a vécu cette révolte. Eh bien, on va trouver à l'intérieur dessiné un portrait de Masaniello, un plan ou des choses comme ça. Donc, il me semble que c'est intéressant comme cette pratique de l'image. Il y a dans ces témoignages sur la révolte napolitaine une complémentarité entre le récit et l'iconographie. D'accord? Il y a une sorte de dialogue entre ces deux modes de narration. Autre élément encore qui m'a interpellé, le fait que la révolte a connu une postérité iconographique importante. Postérité, ça veut dire qu'on l'a représentée pendant l'événement, cette révolte, elle s'est auto-représentée, on l'a représentée en noir ou en blanc, en négatif ou en positif, mais qu'après qu'elle ait eu lieu, on a continué à la représenter. Bien entendu, avec des mutations, des transformations, voire des déformations, mais on retrouve cette postérité iconographique d'une révolte, de révoltés. On représente des révoltés au XVIIIe siècle alors qu'ils ont vécu 70 ans avant. Dans un monde où l'ordre établi est généralement quand même assez établi, c'est moins qu'on puisse dire, à l'époque monarchique, eh bien, c'est un élément, me semble-t-il, paradoxal, qui est intéressant à souligner. Pour comprendre donc ces éléments, cette abondance, cette relative, je dis bien relative, à comparer à ce qu'on a, il n'y a rien à voir, mais par rapport aux révoltes d'Ancien Régime, on a des témoignages iconographiques non, en quantité non négligeable. Pour comprendre ces éléments, je voudrais juste faire un petit point d'introduction, quelques précisions, parce que je ne sais pas, tout le monde sait où se trouve Naples, bien entendu, mais tout le monde ne connaît pas la révolte de Masaniello, ou la révolution de Naples, c'est 148. Alors je voudrais donner quand même quelques exemples. Tout d'abord, le premier exemple, c'est le fait que Masaniello, c'est un jeune garçon, une vingtaine d'années, plébéien, c'est un vendeur de poissons, ce qu'on appelle un lazzaro, il lazzari en italien, des sortes de, pas des truands, pas des voyous, comment disait notre ministre, on disait des lascars, ça serait le meilleur terme, à la limite d'une vie ordinaire et d'une vie où on trouve sa subsistance dans un contrebande ou des choses comme ça. Il prend la tête de la révolte le 7 juillet 1640, dans un contexte assez difficile. C'est une révolte d'abord antifiscale. Vous le voyez ici, la photo de l'époque, la peinture, qui est évidemment peinte a posteriori, je reviendrai sur la date. On voit ici des fruits et des légumes jetés. On voit, la reproduction n'est pas d'une grande qualité, mais bon, on voit ici des gabeleurs, c'est-à-dire ceux qui prélèvent les impôts, s'enfuir. On est le jour du marché, sur cette place qu'on appelle la place du marché. On la reconnaît parce qu'il y a l'église du Carmel, ou de la Carmine, si vous préférez. Et on voit ici des jeunes garçons qui prennent les fruits, qui les jettent sur les gabeleurs. Et le chef de ces jeunes garçons, de cette bande de jeunes hommes, c'est Masaniello. Je ne rentre pas dans les détails, il y aurait beaucoup trop de choses à dire là-dessus. Mais du moins, on a ce phénomène des bandes de jeunes qu'on retrouve dans le monde méditerranéen, des bandes de garçons, Masaniello étant juste, si on prenait pour le monde égyptien, l'équivalent d'un raïs des jeunes garçons, de la compagnie des gars, si on préfère, dans les anciens termes. Cette révolte antifiscale qui éclate le 7 juillet 1647 s'insère dans un contexte général bien, bien plus large. Ce contexte, c'est le contexte de la guerre de 30 ans. Alors pour les historiens, ça n'a pas de mystère, mais cette guerre de 30 ans, 1618-1648, je vous dis qu'on était en 1647, c'est une guerre qui déchire la plupart des pays européens, du moins l'Empire ibérique qui possède Naples, qui possède la Lombardie, enfin qui possède, dont le roi est souverain de Naples, est souverain de la Lombardie, duc de la Lombardie, roi de Sicile, roi de Sardaigne, duc de Brabant, duc de Flandre, roi d'Espagne, mais en tout cas du Castille, Castille, etc. Donc, cette guerre de 30 ans met aux prises cette grande puissance ibérique qui domine, elle la met aux prises avec d'autres puissances, les puissances protestantes plus la France, puissances protestantes, soit en Allemagne, pour les quelques États protestants allemands, je pense en particulier aux Palestiniens, mais je ne rentre pas dans les détails. Cette guerre de 30 ans est telle que les monarchies, que ce soit françaises ou espagnoles, ont besoin de prélèvements fiscaux colossaux. C'est l'époque de Richelieu, pas très amusant, énormément de problèmes donc financiers. Et les Napolitains, évidemment, sont les premiers concernés. En même temps, ces guerres de 30 ans, une autre conséquence, outre que les prélèvements fiscaux, la conséquence, c'est que la plupart des États sont ébranlés, sont secoués par des mouvements révolutionnaires. Il n'y a quasiment pas de principauté à ne pas connaître de contestation fondamentale. Exemple, en 1640, le Portugal se soulève contre son souverain naturel, qui est le roi d'Espagne. Exemple, en 1640, la même année, la Catalogne se soulève contre son souverain naturel, qui est le roi d'Espagne. Exemple, 1640, encore 1640-1649, en Angleterre, c'est la guerre civile et c'est Cromwell. Exemple, 1648, en France, c'est la France, etc. Ce mouvement n'est pas original, n'est pas propre à Naples. C'est un mouvement d'ensemble qui fait qu'il y a une crise générale en Europe. J'insiste pas plus dessus. Par contre, j'insisterai sur une petite chose qui est propre à Naples, c'est que les contestataires qui jettent les fruits par terre parce qu'ils veulent plus payer d'impôts, très rapidement, dès le lendemain, ils réclament plus seulement la baisse des impôts, ça on est tous pour, mais ils réclament aussi, ils ont aussi des revendications politiques. Et dans ces revendications politiques, on a, entre autres, une moindre place pour l'aristocratie, une plus grande place pour le peuple. Alors le peuple, c'est quoi? Ça renvoie à la notion romaine, en partie, la plèbe, plus une partie de la notion de peuple, c'est tous les non-nobles, mais qui ont fait des études. Alors, en Italie, on appelle ça les togati, en Espagne, on appelle ça les letrados, en France, on appelle ça les gens de robe, d'accord? Tous ces gens qui ont fait un petit peu... les profs, les caricatures, les profs, les juges, les compagnies, d'accord? Bon, donc tout ça, c'est le peuple, et ce peuple, il revendique moins d'impôts, mais il revendique aussi une participation politique. Alors, souvent, on me dit, non, il n'y a pas de révolution, il y a une révolte, c'est un phénomène limité. Je m'étais amusé, juste, mais je ne vais pas m'insister dessus, parce que nous, on s'intéresse à la ville aujourd'hui, mais juste pour vous dire, les petits points rouges, c'est à chaque fois que j'ai rencontrer une mention d'un palais incendié, d'un noble pendu par les pieds, d'une audience, c'est-à-dire d'un tribunal pillé, etc. Ce qui signifie qu'on a effectivement un mouvement d'une certaine ampleur dans tout le royaume de Naples. Le roi Naples, c'est un royaume de 12 provinces. Nous, en France, on pense Naples, c'est une ville. C'est une ville, mais c'est aussi un royaume de 12 provinces. Donc, cette contestation, c'est une contestation qui éclate à la suite d'un détonateur antifiscal et qui va être liée assez rapidement par des revendications d'ordre politique. Ça explose dans une ville qui est la première ville d'Europe avec Paris et la deuxième ville d'Europe avec Paris, et la première étant Londres, Londres un petit peu plus importante. On n'a pas de chiffres à l'époque, les recensements ne sont pas terribles à l'époque, il n'y a pas de recensement. Entre 230 000 habitants et 300 000, ça dépend des auteurs, on n'en sait trop rien pour Naples. Donc une ville extrêmement importante, avec une structure urbaine très ancienne. J'ai plusieurs géographes devant moi. Alors, il faut absolument faire un peu de géomorphologie urbaine. Non, je blague dans ça, mais voilà une photo actuelle. Hein, c'est pas d'époque, mais je reviens. Bon, une structure urbaine selon un plan hippodamien, d'accord, avec 29 quartiers, en réalité 30 plus une place, 30 quartiers, 3 rues, et on a ces plans. Ces 30 quartiers sont administrés par des capitaines de rue élus par le peuple, comme on surveille les milices par le peuple. Ça peut être le peuple embourgeoisé des lettrés, bien entendu, mais ça peut être aussi le petit peuple qui sert de main d'œuvre, pas de problème. Donc, on a en même temps une noblesse qu'on ne voit pas là, mais c'est aussi un peu un amour pour Naples dont il faudrait parler. Naples, c'est une ville pleine de palais aristocratiques superbes. Et les aristocrates napolitains sont arrivés très tardivement en ville. C'est une noblesse nouvelle, mais de type féodal, qui vit à la campagne. Elle arrive en ville à partir de la fin du XVe siècle. Gérard Labroux leur a consacré un livre. Il a appelé ça « Baroni in città », c'est-à-dire « les barons dans la ville », sous-entendu. Ils ont créé leur forteresse dans la ville, à l'intérieur de la ville. Donc, insérés dans les quartiers, on a des enclaves aristocratiques assez importantes. Et puis, dernière chose, un peu, alors je schématise beaucoup, un peuple, une plèbe, une aristocratie, d'accord, qui tient le pouvoir municipal, entre autres. Il reste un souverain qui n'est pas là. Le souverain n'est pas là, il vit à Madrid. C'est Philippe IV d'Espagne, mais qui est roi de Naples, d'accord. Ce roi de Naples envoie un délégué, un représentant, un alter ego, un autre lui-même, qui est un vice-roi. Ce vice-roi, il réside dans un petit palais qui se trouve juste à côté du théâtre San Carlo, qui n'est pas encore construit à l'époque, dans le XVIIIe siècle, qui réside ici. Mais si je vous ai pris cette photo-là, c'est pas pour vous montrer la guerre mussolinienne, qui est totalement hors sujet, c'est pour vous montrer cet édifice-là, qui est le Castello Angelino, qui est un vieux château créé par les Angevins au XIIIe siècle. Et puis, c'est parce que j'ai pris une photo aussi. Cette photo, vous avez deviné que je n'ai pas loué un avion. Donc, on est en haut, il y a une forteresse, une magnifique forteresse, qui est le château San Telmo. Et ce château San Telmo et le Maschio Angioino, le Castello Nuovo, ce château-là, sont les deux points d'ancrage des quelques garnisons de militaires espagnols qui sont présentes. On estime à un maximum de 500 soldats. Est-ce qu'ils sont espagnols? Ils sont à moitié espagnols, italiens, flamands, etc., wallons et compagnie. 500 soldats payés par la monarchie espagnole pour contrôler une ville comme Naples. 300 à 400 000 habitants, d'accord? Donc, je ne vais pas faire de politique sécuritaire, mais on est totalement dans une ville qui s'auto-administre en grande partie, donc c'est important. Donc, une ville gigantesque pour l'époque, qui est au bord de la crise politique, qui enclenche la crise politique le 7 juillet 1647 avec, entre autres, un petit chef, Masaniello, Thomas Agnello, ou Masaniello, comme on l'appelle généralement. Voilà pour le cadre à peu près chronologique. Donc la question de l'image qui se pose, à mon avis, d'une manière particulière dans cette révolte. Alors, avant de vous dire directement dans cette révolte, juste à Naples, il me semble que la question de l'image se pose une question d'une manière particulière parce qu'on se trouve dans le monde méditerranéen, européen. D'une part, on sait que la réforme catholique, initiée au Concile de Trente, renforce, s'accentue le poids des médiations, des intercesseurs entre l'individu, entre le pauvre pécheur que nous sommes, et le sacré, le divin. Que ce soit les intercesseurs de type les saints, tout ce qui concerne les saints, ou que ce soit le culte marial, ou que ce soit les images. Et les images trouvent un poids renforcé dans le monde méditerranéen, en particulier évidemment en Espagne, mais aussi en Italie, bien entendu. Ce culte des saints, il est tel qu'on voit des auteurs italiens, je pense à un dénommé Di Maio, qui a écrit un certain nombre de livres fort intéressants, qui parle même du culte de la Vierge, du culte marial, comme un culte ethnique, à savoir que le Napolitain s'identifie par le culte à la Vierge. Et à la limite, est-ce que c'est totalement faux? Lorsqu'on prend le taxi, même en descendant, on voit combien de fois le baiser à la petite chaîne avec la Vierge. Et effectivement, on a une sorte de mariolatrie, comme l'a qualifié un autre auteur, envers la Vierge. Ce poids de l'image et des intercesseurs, il est énorme à Naples. Par exemple, entre 1600 et 1750, on compte 28 saints nouveaux à Naples. Alors qu'en 1650, la ville comptait déjà 7 patrons. Donc, on a absolument besoin de renforcer la protection du divin sur la ville. Et ça s'accélère au XVIIe siècle. Au milieu du XVIIe siècle, eh bien, un historien, Jean-Michel Salman, écrit « Tout se passe comme si le système primitif de protection ne suffisait plus et que face à l'angoisse que généraient les aléas de la vie, il convenait d'établir des remparts de plus en plus nombreux et de plus en plus élevés. » Donc, l'image est un de ces remparts. Je n'ai pas dit que c'était le seul, très loin de là, mais c'est un de ces remparts vis-à-vis de l'angoisse qui se saisit des populations à ce moment-là et face aux crises auxquelles les populations sont confrontées. Est-ce qu'on doit voir aussi dans le fait que Naples est une frontière? C'est une frontière avec le monde orthodoxe. Il n'y a que l'Adriatique qui sépare Naples du monde orthodoxe. Quelle l'influence de l'orthodoxie sur le monde de l'image qui, et sur les cultes de l'image qui sont très présents à Naples? Je vous pose la question, je ne suis pas compétent. Quelle aussi frontière, quel rôle de la frontière avec le monde musulman qui se trouve juste en face, d'accord? Et entre autres, d'ailleurs, il y a tellement d'impôts qu'on estime environ 30 000 le nombre de Napolitains de tout le royaume qui s'enfuient par an vers la Berbérie. La Berbérie, c'est-à-dire là où on paye moins d'impôts, le monde musulman, tant mieux. Bon, c'est un phénomène connu dont Brodel a déjà parlé. Donc, l'image est quasiment surévaluée, on pourrait dire à Naples, surévaluée, si je vous dis ça, c'est par rapport à la France, donc ça n'a pas de sens, mais l'image a un poids extrêmement important, je crois. On peut le voir aussi, une dernière chose, et je crois que ça sera quasiment tout pour mon introduction, au fait que Naples est un milieu extrêmement propice, donc, à voir éclore des peintres, et une peinture extrêmement riche au début du XVIIe siècle. De très nombreux artistes travaillent à Naples, vivent à Naples. L'un des plus connus, évidemment, c'est le Caravage, qui est passé au couvent dominicain de Naples, couvent peuplé d'hérétiques, puisque la cité de Dieu de Campanella, excusez-moi, cherchez le nom, Campanella a vécu aussi dans ce couvent dominicain, Caravage aussi, mais d'autres artistes, d'autres peintres fameux y vivent. Giuseppe Ribera, ça vous dit peut-être quelque chose, Ribera, qui vit la révolution de Naples à Naples. Le dominicain, ou Domenichino, si vous préférez, qui est un bolognais, mais qui vit à Naples. Vous pouvez penser aussi à une peintre, excusez-moi, je ne sais pas comment on dit, une peintre très célèbre, la plus célèbre, je crois, de tous les peintres, femme, Artemisia Gentileschi. Artemisia Gentileschi, fille d'Orazio, a vécu une vingtaine d'années à Naples. Alors là, je vous donne à peu près les plus connus, les plus cotés des peintres. Bien entendu, il faut voir que derrière ce monde des peintres célèbres, il y a tout un inframonde des peintres qui vendent les images de la Vierge quotidienne, dont on a besoin pour son salut. Et on voit une cohorte d'artistes napolitains qui travaillent à leur compte, dans leurs ateliers, qui reçoivent des commandes, aussi bien des commandes religieuses, des commandes des corporations, des commandes des grands. Alors, entre autres, Domenico Gargiulo, Mico Spadaro, fait partie de ces peintres secondaires. C'est un petit maître, on va dire, c'est un petit maître, qui fait partie de cette cohorte de peintres dont je vous parlerai au fur et à mesure. Un livre a été publié récemment sur Peinture et Société à Naples, 16e, 1016e, 1018e, par Gérard Labro. Vous trouverez tous les noms, si ça vous intéresse, là-dessus. Donc, on a une très grande présence de l'image à Naples. La question, c'est comment, pourquoi on a autant d'images qui nous restent, ou pourquoi y a-t-il des images à Naples qui nous restent de la révolution de 1647-48. Et je voudrais insister d'abord sur cette première chose, puisqu'on a tout d'abord des textes qui nous parlent des images. Avant d'avoir les images elles-mêmes, la première chose qui est étonnante, quand l'historien est pas malin, il ne regarde pas les images, il regarde d'abord les textes, la première chose qui choque, c'est en lisant les textes, on fait référence aux images. On y fait référence vraiment très souvent. Le mot d'ordre de toute révolte, c'est « Vive le roi, abat le mauvais gouvernement ». Mort au mauvais gouvernement. Comme par hasard, qu'est-ce que font les révoltés pour dire « Ah bah le mauvais gouvernement » Ils prennent les tableaux, ou ils prennent les gravures des rois, et ils les brandissent, c'est écrit « Ah bah, alors, pour désigner qu'ils sont protégés par le roi contre le mauvais gouvernement. On a une adhésion populaire à la monarchie. Et on voit ça très très souvent. Alors, le premier portrait qu'on voit exhibé, dès le 7 juillet, puisqu'on proteste contre le gouvernement, il faut en appeler aux gentils souverain. Le premier, c'est le souverain qui est mort depuis un moment, c'est Charles Quint. et on voit des portraits de Charles Quint brandis dans les rues, et on fait référence du temps de Charles Quint. C'est un petit peu comme si on manifestait de nos jours avec le portrait de De Gaulle en disant « actuellement, on n'a pas De Gaulle au pouvoir ». Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une sorte de « à l'époque, c'était bien, d'accord ? Au moins, l'université avait de l'argent, etc. » Bon, eh bien, on se réclame de l'âge d'or de Charles Quint, où la ville était de plus en plus opulente, où les palais se construisaient, etc. On peut dire qu'il y a même des rites de dévotion envers l'empereur, qui meurt en 1500, dans les années 1558, d'accord, qui était roi de Naples, évidemment, puisqu'il lègue entre autres Naples à son fils Philippe II, et on voit des rites de dévotion. Alors, je m'excuse de vous mettre une citation un peu longue, mais vous n'êtes pas obligé de la lire, c'est plus facile à lire et en même temps à écouter. La nuit du tombé du 8 juillet, les incendiaires, c'est-à-dire le peuple qui incendie les locaux des gabeleurs et de la noblesse, se réunirent au Borgo de Virginie, un quartier, devant le palais du duc de Traietto. Ils brûlèrent tout ce qu'ils possédaient de beau et de bon dans la maison. Et s'il était tombé entre leurs mains, ils auraient fait 1000 morceaux de sa personne, si bien que tous les incendiaires s'étaient enfuis. Les incendiaires, c'est ceux qui sont les victimes, bien entendu. Il arriva que, pendant qu'ils brûlaient ses meubles, ils voulurent, les révoltés, aussi mettre le feu au tableau parmi lequel se trouvait un portrait de Charles Quint, qu'ils n'avaient pas reconnu. Alors des spectateurs de la scène leur dirent « Vous brûlez le portrait de celui qui vous a fait tant de bien, ceci est le portrait de Charles Quint. » Et rapidement ils le prirent et crièrent « Vive notre bienfaiteur !» Et ils le placèrent sur un mur sous un baldaquin, c'est le symbole de divinité, et c'est ainsi que tous les citoyens, alors citoyens, c'est les citadins en même temps, hein, en italien, donc c'est les deux à la fois, agirent ensuite, recherchant le portrait de Charles Quint et le disposant sous les portes de Naples, à l'entrée de la ville. Donc on a quasiment un rite de dévotion, qu'on place sous un baldaquin un portrait, c'est qu'on le vénère. Ces rites de dévotion sont relativement fréquents, j'en ai retrouvé plusieurs, en juillet et août 1647, au moment où éclate la révolte de Naples. La plupart du temps, on place ces portraits aux accès de la ville. En un mot, c'est l'empereur qui garde la ville, donc il la protège. C'est quasiment un culte, effectivement. Autre exemple, le 13 juillet, on est 6 jours après le début de la révolte. Le vice-roi, dépourvu de soldats, est obligé de négocier. Il accepte de négocier ce qu'on appelle des capitulations, c'est-à-dire un accord politique avec Masaniello et puis avec les révoltés. Et on assiste à des manifestations, ce 13 juillet, des manifestations de dévotion envers la figure impériale. Il y a une procession à cheval qui va d'un bout à l'autre de la ville, du palais royal, qui est le palais vice-royal en réalité, et on place à tous les croisements le portrait de Charles Quint sous un baldaquin. À tel point que durant ce trajet, à un moment, il y a Masaniello, donc ce jeune garçon, une vingtaine d'années, donc je vous ai montré une représentation, qui voit un portrait de Charles Quint, place du Nido. Le place du Nido, c'est le cœur de Naples, quoi, l'un des cœurs de Naples. Et il s'approche du portrait de Charles Quint, prononce des louanges à l'effigie de l'empereur, sort une médaille d'or frappée à l'image de Charles Quint, baise la médaille, fait baiser le tableau par la médaille, et donne la médaille au vice-roi. Allez, vice-roi, embrasse Charles Quint, c'est bien la preuve que tu veux revenir à l'âge d'or passé. Donc, on a cette mémoire et en même temps cette image. L'image est une sorte de média, de vecteur, d'intermédiaire politique pour se protéger, en même temps pour faire réussir, pour accéder, si on veut, à ses revendications. Alors ça, c'est Charles Quint, il est mort depuis 100 ans, vous allez me dire, c'est 80 ans, c'est facile. Mais on a les mêmes portraits de Philippe IV qui sont exhibés. Philippe IV d'Espagne est le souverain régnant, il envoie des vice-rois, mais de la même manière, on a des effigies royales de Philippe IV, on a des effigies royales aussi, alors c'est plus amusant, de Isabelle de Bourbon, qui est l'épouse de Philippe IV, qui est la fille d'Henri IV, qui épouse Philippe IV en 1615. Et on les dispose, là encore, sous un dais, hein, exactement comme on place un autel dans une église sous un dais, bien entendu. Donc, en réalité, quand on représente le portrait de Philippe IV dans la rue, ça veut dire que le roi qui est absent, on le rend présent. Sous-entendu, son alter ego qui est là, le vice-roi, c'est un mauvais, d'accord ? On retrouve la phrase « Abat le mauvais gouvernement, vive le roi », on le retrouve bien souvent. Donc, on a dans le portrait, dans l'usage du portrait par les révoltés, une sorte d'image ubiquitaire, c'est-à-dire on va rendre présent à tous les endroits sa majesté, la souveraineté, pour protéger l'espace, entre autres, l'espace de la révolte quand même, puisque c'est une révolte que cette chose-là. Le 7 juillet, on a vu place du marché la manifestation, eh bien, les séditieux cherchèrent le dur d'Arcos, le vice-roi de tous côtés, ne le rencontrant point, ils déchargent leur rage sur les plus précieux meubles qu'ils trouvèrent dans ses appartements. Ils pillent le château que je vous ai montré, le château Masciangelino, le château qui est un château fort. Ils déchargeaient leur rage sur les plus précieux meubles qu'ils trouvèrent dans ses appartements, jetant les uns par les fenêtres et brisant ou déchirant les autres, sans rien respecter que le dais sous lequel était le portrait du roi. D'accord ? Donc, si vous. L'équivalent, on pillerait une salle du conseil municipal, on laisse juste le portrait, vous avez compris. On a un respect, c'est l'autorité souveraine qui est présente ici. Partout, l'image du roi, effectivement, paraît, d'après tous les témoignages que j'ai pu rencontrer, relativement respectée durant cet été. Durant cet été-là, on peut dire que la monarchie espagnole n'est pas contestée. Il y a des secteurs de la population napolitaine qui contestent, mais déjà, le respect des portraits généraux de la monarchie, du souverain, souligne que la contestation ne franchit pas les revendications, je vous ai cité, des revendications antinobilières et antifiscales, bien entendu. On retrouve des phénomènes semblables en province. Je n'ai pas étudié la province, mais un Italien, Pierluigi Rovito, a étudié la ville de Cosenza, dans la Calabre. Et en Calabre, la nouvelle assemblée municipale, composée principalement de populaires, de non-aristocrates, instaurée à la suite de la révolte, se tient à l'ombre du portrait de Philippe IV d'Espagne. Donc c'est quasiment un stéréotype, cette chose-là, ce qui, me semble-t-il, montre bien le rôle de l'image, le rôle du portrait, comme médiatrice et comme intercesseur. Quand est-ce qu'il y a une référence, une rupture à ces références au portrait royal dans une révolte? Normalement, la première chose dans une révolte, c'est qu'on détruit tout l'ordre établi. Là, ce n'est pas le cas. Là, il faut attendre un certain nombre de mois pour que la révolte commence à s'en prendre à l'image de l'Espagne, à l'image de Philippe IV, roi de Naples et roi d'Espagne. Il faut attendre des événements, mais qui se passent bien après la mort de Masaniello. Masaniello, il dure 10 jours. Et au bout de 10 jours, il est assassiné parce que on a l'archétype, on a l'archétype entre autres du tyran, entre guillemets, je passe sur les détails. Mais du moins au mois d'octobre, début octobre 1647, le vice-roi attendait à négocier en attendant l'arrivée de forces militaires, de troupes, sachant que l'Espagne a bien du mal vu qu'elle est confrontée à d'autres révoltes et à la guerre de 30 ans. Du moins, on réussit à envoyer des troupes. Et on a une flotte qui bombarde la ville de Naples. Vous avez vu que c'est une baie, Naples. Eh bien, vous alignez les navires et les galères face à la ville et vous bombardez la ville. Fantastique. Un témoin. Je l'ai mis dans le mauvais sens. Oui, je l'ai mis dans le mauvais sens. J'en ai oublié. C'est pas très grave. Bon, je vais revenir dessus. Le peuple, ayant, nous dit un témoin, dans les manuscrits que j'ai évoqués, le peuple ayant idolâtré les effigies du roi en disant toujours « Vive le roi d'Espagne », comme on l'a dit, son portrait était placé dans toutes les rues. Les insurgés se résolurent à ne plus vouloir reconnaître ni de roi ni d'espagnol. Et on donna pour ordre que toutes les armes du roi, que Masaniello avait ordonné d'afficher sur les portes des maisons de Naples, fussent enlevées. Et ainsi, quelques-uns s'en allèrent de maison en maison, les ôtant et en arrachant, les arrachant et en criant toujours « Vive le peuple !» C'est la conséquence du bombardement. La ville est bombardée par la flotte dirigée par le fils de Philippe IV d'Espagne. Eh bien, on arrache, en un mot, on fait une soustraction d'obédience. On rompt avec la légitimité traditionnelle. On rompt avec la légitimité traditionnelle, mais on va tenter de trouver une autre légitimité. Comme en Catalogne, lorsque les Catalans sont révoltés, ils ont fait appel au roi de France qui a envoyé ses troupes et qui a écrasé les Catalans. Bon, qui a imposé une autre monarchie absolue, si on veut. Eh bien, à Naples, ils réclament aussi un souverain étranger et on voit arriver déjà, même dès le mois d'octobre, des portraits d'un prétendant. C'est le duc de Guise. Un témoin nous dit « J'ai vu entrer le portrait, pas le duc, hein, mais le portrait du duc de Guise, de toute sa figure entière, je trouve ça assez amusant, dans un tableau fait à la demande de Del Rosa. » Je n'ai pas identifié Del Rosa. « Comme si cette charge, il l'avait reçue du roi Philippe IV le Grand. » D'accord. Alors là, c'est un partisan du roi qui écrit, mais on voit, entre autres, arriver des portraits d'autres prétendants à la direction de Naples. Et on a toute une circulation des portraits qui existent dans la ville révoltée que l'on retrouve à ce moment-là. Alors, comment peut-on voir ces différents portraits? On les a pas. Je n'ai pas les portraits. J'ai des témoins qui me disent « Devant moi, j'ai encore le portrait du duc de Guiche. » Nous sommes dans les années, quoi. On devine que l'auteur écrit dans les années 1770 et nous dit « J'ai un portrait du duc de Guiche quand il est arrivé à Naples. » Malheureusement, nous, on l'a pas. Nous, ce qu'on a, c'est des petites choses qui nous permettent de voir de nouveau, quoi, une rupture, des images qui nous montrent une rupture politique. Ici, ce sont des sceaux qui CEAU, évidemment, qui SCEAU, qui nous montre entre autres les proclamations de la République napolitaine. De la République napolitaine, c'est-à-dire contre la partie révoltée, contre Philippe IV d'Espagne. Et on en a un certain nombre ici. Vous voyez à gauche le pape, d'accord, fort logiquement le royaume de Naples, je vous rappelle, les sous-suzeraineté napolitaine, sous-suzeraineté romaine, excusez-moi, pontificale, comme le royaume d'Angleterre jusqu'en 1534, jusqu'à l'anglicanisme, d'accord. Donc, suzeraineté pontificale, c'est-à-dire que le roi d'Espagne prêtait hommage à son seigneur, hommage dis-je, à son seigneur qui était le pape. Et ça, tous les ans, il y a une petite cérémonie, ça fait plaisir au pape d'écraser un petit peu ce monarque un peu prétentieux, mais je passe. Le pape est donc le suzerain naturel de Naples, pas politique par contre. Au milieu, nous avons la Vierge. On est napolitain quand même, donc il y a la Vierge qui va être identifiée. Et puis à droite, quoi, ou à gauche, ça dépend de votre écran, vous avez le P, Popolo, d'accord, avec la couronne. Naples s'appelle la très fidèle ville de Naples, la royale, noble et très fidèle ville de Naples. Naples se conçoit comme une ville royale, comme une ville noble. Elle n'a pas d'impôts. C'est pour ça qu'ils sont révoltés, d'ailleurs. D'accord ? Donc, ils intitulent même leur régime la Royale République Ducale de Naples. On a les quatre à la fois. Non, il faut les aligner, Royale, République et Duc. D'accord ? Ça ne les gêne pas. C'est à peu près normal à l'époque. Ici, deux autres titres. Amnistie générale à tous les prisonniers condamnés, suspects et contumaces. Henri de Lorraine, duc de Guise, comte II, c'est en Normandie, hein, père de France, etc., défenseur de la liberté, duc, ou duce, comme vous préférez, duc de la Sérénissime Royale République de Naples, généralissime de ses armées. Là, on a une bannière nouvelle, une image nouvelle que tous les analphabètes reconnaissent. C'est la bannière ducale des ducs de Guise. On trouve dans n'importe quel site pronobiliaire, on retrouve cette même armoirie ducale de nos jours pour voir ça. Donc, ce qui est intéressant en même temps, c'est que ces armoiries, c'est un langage qui iconographique qui sert aussi à l'époque. Et alors, étonnamment, dans cette révolte napolitaine, comme on manque de soutien, on appelle toutes les forces étrangères qui veulent bien venir. On a appelé le duc de Guise, je passe sur le duc de Guise, et puis ses affidés, c'est ceux qui l'aident. Ici, esprit de Raymond, baron de Modène, maître, c'est un Français, originaire de la région d'Avignon, du canton vénitien. Et vous avez ses armes, et il publie comme maître de camp général des armées de la Sérénissime et Royale République de Naples, et son royaume. D'accord. On retrouve toutes ces images qui sont présentes dans Naples à cette époque-là. D'autres éléments encore sont assez facilement visibles pour les analphabètes. Sur l'image, je passe un petit peu, un petit peu rapidement. Voilà deux types de monnaies, l'une en argent, l'autre en cuivre. Et vous retrouvez un certain nombre d'éléments, la figure pontificale, comme souverain, comme suzerain, le SPQN, fort logiquement. Tout autour, vous retrouvez Dux Republica Henricus. Henricus, vous avez compris, c'est Henri de Lorraine, le duc de Lorraine, et Republica, Ubertas, la fécondité, si je ne m'abuse. Vous avez tous les symboles qu'on reconnaît à l'époque, le blé, etc., qui permet de montrer la richesse. Alors, donc c'est important que cette chose-là, que ces emblèmes, que ces monnaies qui sont présentes. Alors, de manière assez amusante d'ailleurs, ces monnaies de la République vont circuler jusqu'au début du XVIIIe siècle dans le royaume de Naples. C'est-à-dire, on conserve. Nous, enfants, on avait des monnaies du maréchal Pétain. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient enfants, à 2 centimes, on avait un carambar. Donc, et il y avait le maréchal Pétain. Donc, là, on retrouve, 70 ans après, les monnaies de la Révolution. Même si la monarchie ne veut pas de ces monnaies, ne veut pas de ces symboles d'une révolte, eh bien, on les conserve parce que c'est de l'argent et que ça sert toujours, bien entendu. En ce qui concerne toujours l'usage de l'image, je crois qu'il faut insister aussi sur un élément, à savoir la présence des saints. Les saints sont des intercesseurs fondamentaux, très très importants pour combattre, tout simplement. Pour combattre, on a un témoignage, je ne vais pas vous lire parce que le témoignage est un peu long, mais on expose les reliques de San Gennaro. San Gennaro, Saint Janvier, si vous préférez, dont tous les ans on assiste au miracle du saint qui se liquéfie à date fixe. Preuve que Dieu protège la ville, et j'allais dire que ce n'est pas une blague, mais on se sert des reliques pour être protégé. Et lorsque les Espagnols, ou du moins, excusez-moi, lorsque la flotte de l'Infant bombarde la ville de Naples insurgée, que font les populaires qui sont pour se protéger? On observa que San Gennaro était toujours liquide, le sang. Un signe que les populari, le peuple, avait été outragé par les ennemis, puisque les tirs de canon des navires et des trois forteresses que je vous ai montrées furent bien des centaines de milliers durant la journée et ne firent pas de dégâts aux églises et aux autres lieux de la ville. Et il n'y eut pas plus de 12 personnes qui moururent sous les boulets. Vous avez vu comment Naples est une ville resserrée pourtant. Si bien qu'un prêtre, très dévot à San Gennaro, fit imprimer l'effigie de ce saint. Il fit faire un tirage de 2000 exemplaires, les répandant dans toute la ville, lesquels furent affichés dans les maisons, aux fenêtres et aux lieux publics. Ce fut un miracle que là où ils furent apposés, il n'y eut pas de dommages, quoique dans ces lieux, il y eut beaucoup de tirs. On distribua des petites images aux soldats qui se les plaçaient sur le cœur. Et on remarqua que tous ceux qui ne portaient pas l'image de San Gennaro furent tués ou blessés. Donc vous avez compris, on avait intérêt à avoir une petite image de San Gennaro, c'était important. Alors, ce qu'il y a, ce qu'on se pose la question, et je me la pose après Martin Warnke, qui a écrit sur l'image et révolution, ou Peter Bork a aussi écrit sur la fin des mythologies royales. La question, c'est la question de la réalité de ce que représente l'image. Est-ce que l'image protège ou est-ce qu'elle ne protège pas? Que pensaient les contemporains? À savoir, est-ce qu'ils attribuaient vraiment une puissance magique à l'image? Est-ce que le saint était réellement là lorsqu'ils étaient protégés? Est-ce qu'ils détournaient réellement les balles? Alors vous allez me dire, je suis en train de vous poser un débat sur les queues de cerises. Pas du tout à mon avis. Alors je voudrais employer quand même juste le raisonnement de Peter Burke là-dessus. Lui parle d'un rapport, d'une analogie organique entre l'image et le sacré. Une analogie organique, c'est-à-dire... Il souligne l'automatisme de l'assimilation qui est faite par les individus du XVIIe siècle entre le sacré et l'image. Il y a une indissociabilité de la présence du sacré dans l'image. Et pour expliquer la rupture de cette analogie, c'est-à-dire ce qu'on vit actuellement, vous mettez une image qui n'y croit personne, eh bien, Peter Burke invoque, entre autres, une laïcisation du monde. Et alors, si je l'évoque aujourd'hui, Peter Burke, c'est parce qu'il invoque, entre autres, la notion de Max Weber, mais qui s'appelle le désenchantement du monde, c'est-à-dire qu'on n'attribue plus à une puissance sacrée notre existence, d'accord? C'est-à-dire qu'on a rompu ce lien organique entre l'image et le sacré, entre le magique et le réel, entre le surnaturel et le temporel, ce qui pose un vrai problème. Alors, cette notion de désenchantement, il ne faut pas la confondre avec la notion espagnole de desengaño, mais on pourra en parler tout à l'heure s'il y a des gens qui connaissent ça autrement. On va laisser ça de côté. Mais je crois que c'est vraiment important de penser à la puissance que possède, on pourrait dire la puissance performative, que possède l'image à l'époque. L'image agit. L'image est un acteur. Alors, puisque l'image est un acteur, je vais vous parler d'une image fixe, à savoir le monument. Si je vous parle du monument, c'est qu'un auteur de théâtre actuel, un Allemand, Heiner Müller, a qualifié le monument de image pétrifiée. C'est-à-dire, c'est une image qui est consolidée dans la pierre, un monument. J'ai trouvé c'était assez joli cette chose-là. Je vous passe la citation. C'est tellement joli que je trouve que je peux l'appliquer assez bien pour Naples. Nous avons ici une peinture de ce qu'on appelle en italien l'épitaphio, c'est pratique en italien comme en espagnol, c'est masculin. En français, une épitaphe, mais une épitaphe, c'est ce qu'on inscrit sur une pierre, une pierre tombale ou pas seulement tombale d'ailleurs. Bien, donc moi je préférais choisir le mot masculin pour désigner le monument épitaphe. Nous avons d'abord un tableau en haut à gauche, Carlo Coppola, qui décrit la reddition de Naples le 6 avril 1648, lorsque les troupes espagnoles rentrent dans la ville. On voit en son centre un édifice parallélépipédique dont les pierres sont brisées, d'accord ? Tout au-dessus, au sommet de cet édifice, des têtes, juste des têtes, hein, les corps ont disparu. Bien, nous sommes le 6 avril 1648, on reconnaît que c'est Naples avec le stéréotype du Vésuve. Ici, nous sommes officiellement au mois de juillet 1648, c'est une composition de Mico Spadaro, faite a posteriori, bien entendu, et on retrouve le même épitaphe, avec les mêmes têtes, que les mêmes têtes, non, c'est certainement pas les mêmes, 8 mois après, avec d'autres têtes, mais avec des têtes de condamnés à mort, qu'on a décapitées ici. Alors, ce monument, il est intéressant à plusieurs égards. Alors, est-ce que c'est une image? C'est là, pour moi, c'est une image pétrifiée. D'une part, c'est un monument dont on a pris la décision de réaliser la construction immédiatement après les discussions entre le vice-roi Masaniello. Qu'est-ce qu'on a fait sur ce parallélépipède? On a gravé dans le marbre, au sens propre, les capitulations, pas d'impôts pour Naples, parité entre les nobles et les populaires, etc. Bon, je passe. Vous avez compris l'importance, Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est un monument, donc une image pétrifiée, et on met de l'écrit sur ce monument. D'accord ? Donc, on retrouve les deux là-dessus. Et puis, sur ce monument, si on a une corniche, à l'origine, on aurait dû placer trois statues. L'une de Philippe IV d'Espagne, sous Masaniello, on n'a pas encore rompu avec l'Espagne. L'autre de du pape, et le troisième de Masaniello. On demande cela à un architecte très connu à l'époque, Franz Zago, ça ne vous dit strictement rien. Il a réalisé une partie du palais royal. Il a travaillé au Buen Retiro à Madrid. Sur cet épitaphe, on a une permanence des revendications en même temps qu'un parcours qui est réalisé par le monument. Le monument neuf est à peine terminé qu'il est déjà en partie détruit. On gomme toutes les capitulations qui sont reniées par l'Espagne. On casse les statues. On place des têtes de sutures. C'est un monument détourné. Il est tellement détourné, d'ailleurs, que après le mois d'avril 1648, que va faire le vice-roi espagnol? Eh bien, il va supprimer cet édifice, il va le raser, il va mettre une fontaine à la place. Sous-entendu, vous avez compris, le symbole de la fontaine. Donc, on retrouve ces choses-là. Alors maintenant, je voudrais quand même avancer un peu plus sur l'image. Ce qui est intéressant aussi dans cette révolution napolitaine, c'est qu'on trouve nombre de figurations des protagonistes des événements. Alors, il y a des figurations qui sont assez amusantes. Je le souligne, c'est quand même assez extraordinaire. Je pense au livre de Joël Cornette sur la conspiration du marquis de Pontcallec, qui est incapable de trouver un portrait de Pontcallec, un obliot breton qui a animé une conspiration. Vous voulez aller à Naples, vous trouverez nombre de reproductions. Voilà des peintures, entre autres, Mico Spadaro, Domenico Gargiulo, qui nous montre ici la punition des voleurs. Et on devine des pics, on voit une porte, les armes royales ici, et on devine les voleurs avec les mains sur la tête, poursuivis par le peuple. Les voleurs, à cette époque-là, c'est, alors je caricature énormément, mais c'est quasiment la mafia qui est au service, les bandits, on appelle ça à l'époque, qui sont au service d'un certain nombre de grands nobles contre, pour casser le mouvement de la plèbe. Alors en même temps, c'est avec toute l'ambiguïté, c'est que ces bandits, évidemment, sont à zone fluctuante. Autre peinture que je n'ai pas eu le temps de montrer et sur lequel je n'aurai pas le temps d'insister, mais c'est l'assassinat de Pépé Carafa. Pépé Carafa est un grand noble napolitain. Vous voyez ici, c'est une esquisse, Masaniello qui est sur l'estrade, le tavolato. Et vous remarquez ici les pics. Et on retrouve la tête au bout des pics. Bon, on a l'impression que c'est pour être une peinture de la Révolution française, d'accord ? C'est une peinture napolitaine de l'époque. Et le manuscrit Molini. Alors, on a des représentations des protagonistes, et entre autres, on a une représentation réalisée par un personnage qui a vécu les événements, par un économe d'un couvent qui était présent pendant l'année de révolution à Naples. Ce personnage s'appelle Sebastiano Molini et il a rédigé une chronique de la révolution napolitaine, chronique qui est toujours conservée à la bibliothèque de Bologne. Il est de Bologne, il a fait son temps à Naples, il retourne à Bologne. Alors dans cette chronique, il s'est amusé à peindre, sous forme de gouache, des portraits. Et ces portraits sont assez étonnants tout de même, puisque ce sont les grands protagonistes. Et on voit tout en haut à gauche la femme de Masaniello, qui est un peu peinturlurée outrageusement, mais tout le monde l'a un petit peu. On reconnaît ici, alors, il a mis les légendes pour aider les gens comme nous, 300 ans après, il signor Duca de Arcos, il nous le précise, le vice-roi. Il nous montre ici, c'est à l'envers, j'en suis désolé, Filippo IV, re d'Espagne, Philippe IV, roi d'Espagne. Il nous montre ici Don Juan, le frère de Masaniello, et il nous montre ici, c'est vrai que je le lis dans l'autre sens, le beau-frère, le cognato, le beau-frère de Masaniello. Bon, il nous en montre d'autres encore, je n'allais pas vous montrer tous les protagonistes, mais on retrouve donc l'image qui a besoin de dire, qui a besoin de désigner absolument qui a fait quoi. En un mot, c'est une histoire illustrée que nous a fait Molini de la révolution napolitaine. Il me semble qu'il y a encore peut-être plus intéressant, on a des peintures, quasiment des fresques historiques peinte par un peintre, par Mico Spadaro, dont je vous ai déjà parlé. On a même une trilogie qui existe de Naples. Alors, ce n'est pas une trilogie sur la Révolution, mais c'est une trilogie sur l'histoire de Naples, sur les 25 années que Naples a connues au début du XVIIe siècle. On a trois grandes fresques historiques qui nous montrent trois événements majeurs. Premier événement, l'éruption du Vésuve. Deuxième événement, la révolte de Masaniello. Troisième événement, le Largo Mercatello, le grand marché de Naples durant la peste. Ces trois événements forment un triptyque des malheurs napolitains durant le quart de siècle tel que le perçoit le peintre et tel que le perçoit nombre de contemporains, trois catastrophes ont frappé Naples de calamité. Le premier événement, c'est le séisme naturel et l'éruption du Vésuve. Premier événement, il se déroule, qui est décrit ? Vous voyez le Vésuve ici, crachant évidemment ses fumées noires. On devine un incendie sur un autre cratère. On voit des populations semi-affolées. Vous voyez ici des bœufs avec des chars. On cherche à fuir de la ville. Et on voit ici une procession, évidemment, à la suite de l'éruption, une procession pour demander une intercession divine, particulièrement Saint Gennaro, très certainement. Et on voit ici, on devine entre autres l'archevêque Buoncompagni à l'époque, si je ne me trompe pas, qui est là. On a donc une première catastrophe, 1631, éruption du Vésuve, c'est la plus importante éruption depuis 79 après Jésus-Christ. Ça vous dit quelque chose, 79 après Jésus-Christ, c'est l'éruption qui a enseveli Pompéi, là où Pline a écrit ses fameuses lettres décrivant l'éruption. On est convaincu que c'est une calamité qui frappe, que c'est un signe divin, il faut absolument empêcher cette calamité. Eh bien, l'image est un élément d'intercession, un élément qui permet de prendre la distance par rapport au drame. Le deuxième événement qu'on met dans ce tribunal. Alors, vous regardez ici sur la forme, excusez-moi, j'étais un petit peu trop vite, sur la forme tout de même, 1,26 m sur 70, sur 1,77 m, c'est pas un petit tableau, c'est un tableau relativement important, 1,77 m. Donc, on a vraiment une fresque historique qui est décidée ici. En même temps, tout ce discours sur le Vésuve est un discours qui est le discours de la fin du monde. C'est le discours qui nous montre une Naples qui va être ensevelie. C'est tout un discours qui montre que la monarchie s'effondre. D'accord ? Donc on a tout un discours politique derrière cette peinture. Deuxième peinture, pour ne pas regarder la dimension, à 26 sur 1,77, même dimension. D'accord ? Il y a un problème, soit il avait un seul mètre, un seul étalon, soit, bon, vous avez tous compris, qu'en réalité c'est bien la deuxième partie du triptyque que l'on retrouve ici. Ici, à la métaphore tellurique succède donc la peinture de la révolution ou de la révolte de Masaniello. Et on veut absolument montrer que cette peinture, c'est encore une épreuve qui frappe la ville de Naples. Alors, on retrouve ici ce que je vous ai décrit tout à l'heure, mais sur un autre tableau, l'épitaphe qui est présent, Masaniello qui est au centre, l'épitaphe qui est derrière, et derrière, si on se rapproche, ces tableaux sont conservés à la Chartreuse de San Martino à Naples, quand on se rapproche des tableaux, on voit ici les pillages, dont je vous ai cité un certain nombre d'éléments tout à l'heure. Et on voit entre autres, de manière assez étonnante, des cadres. Alors, j'ai jamais su si c'était des miroirs ou des tableaux, mais j'aimerais bien pouvoir identifier les tableaux qui ont été volés ou qui ont disparu ou qu'on a protégés. Il y a un manuscrit à Rome, que j'aimerais bien aller lire, qui décrit entre autres quels tableaux ont été récupérés à l'époque pour je ne sais pas quoi, mais avec des identifications possibles. Donc, on trouve ici une peinture qui nous montre donc la révolte, le désordre, l'ordre établi, inversé, si on préfère, on est sans dessus-dessous, c'est une catastrophe qui est importante. Troisième tableau du triptyque, la peste. La peste à Naples, 1656. Naples, une ville de donc 250 000, si je prends le bas mot, connaît entre 150 000 et 200 000 morts de la peste au printemps 1656. C'est l'une des catastrophes, c'est le fléau terrible. Naples s'en remet difficilement, évidemment, mais c'est la catastrophe complète de Naples. C'est le châtiment divin qui couronne un petit peu le séisme annonciateur, ensuite la révolution, et à la fin, le châtiment divin, la peste, le fléau de Dieu qui foudroie la capitale. De fait, on a ici un triptyque qui nous montre les cataclysmes. Ça veut dire que l'image considère la révolution comme un des éléments du surnaturel, du sacré, qui frappe les hommes sur Terre, d'accord ? Et Mico Spadero a vécu à Naples à cette époque-là, hein, d'accord ? Il est présent, donc c'est pas un peu sur lui. Donc, on retrouve tout un discours qui est posé ici. Alors, cette unité, elle est assez visible par la taille, je vous l'ai dit, mais aussi par les structures. À chaque fois, on a un quadrilatère qui est présent, que ce soit la place du marché ou que ce soit la procession. À chaque fois, on a un espace fermé. On a une répétition des cadres formels. Je ne vais pas insister énormément, mais c'est assez important de souligner ce triptyque. Bien entendu, le salut n'est pas loin quand même, ne vous inquiétez pas. Et entre autres, Mico Spadaro peint une peinture. C'est au même lieu que là où j'ai pris la photographie, où je vous ai dit il y a la forteresse à tel endroit. On est tout en haut sur la chartreuse de San Martino, qui est juste surplombée par la forteresse Saint-Elme. Et vous voyez bien Naples, vous pourrez quasiment voir le Decumanus, quasiment, je dis bien entendu. Ici, en réalité, c'est un ex-voto, où on a les chartreux qui prient pour la rédemption de la ville de Naples. Et on peut deviner, entre autres, toujours la médiation céleste, le Christ avec un certain nombre d'apôtres, et puis vous voyez ici les chartreux qui prient, qui remercient. Au centre, on peut identifier l'archevêque Philomène Arino, un cardinal, le Christ avec une épée de feu, Saint Joseph, Saint Pierre, Saint Hugo, puisqu'il est le fondateur des chartreux, etc., etc. Donc, ce qu'on considère ici globalement dans la pensée du XVIIe siècle napolitaine commune ou figurée, c'est bien la catastrophe que représentent, entre autres, ces trois moments, ces trois étapes. Ce qu'il faudrait s'interroger en réalité, c'est de savoir qui a commandé ces peintures. Celle-ci, on le sait, c'est un ex-voto, il n'y a pas de problème. Mais les trois autres, qui a commandé ces trois peintures? Je l'ignore, je crois que tout le monde l'ignore, on se pose la question, c'est un peu inquiétant. Donc voilà pour cette image de la révolte. Cette image de la révolte ne s'arrête pas à Naples. Elle ne s'arrête pas à Naples, elle ne s'arrête pas aux années 1750. Elle se prolonge d'abord dans les manuscrits. Le roi d'Espagne, est-ce que c'est une commande du roi d'Espagne? Il y en a à Madrid, j'ai découvert un manuscrit qui décrit la révolte, et comme par hasard, en plein milieu des textes, tiens, on a ce petit dessin, un petit coup de crayon, un point final. Tiens, est-ce qu'il était présent? Je ne sais pas qui est l'auteur, ce n'est pas marqué, on ne sait pas de quand date le manuscrit, mais on trouve un petit dessin comme ça en plein milieu. C'est assez étonnant. Toujours dans la postérité historiographique, on retrouve ici, dans un autre manuscrit de la Bibliothèque nationale de Naples, on retrouve le portrait dessiné avec un petit commentaire en italien. Et ce qui est amusant, c'est que le commentaire, comme quoi les images circulent en Europe, les manuscrits aussi. Thomas Agnello d'Amalfi, copiato da quello che fu stampato in Parigi. Hein? Thomas Masaniello, copié sur le dessin qui fut imprimé à Paris. D'accord? C'est amusant. Non? Mais Masaniello, c'est à Naples, c'est pas à Paris. Ça veut dire que c'était déjà parti à Paris, c'était déjà revenu. Donc quand on dit qu'on était dans un monde immobile où l'image ne circulait pas, si, on a bien une circulation importante de l'image. D'autres exemples de cette circulation de l'image, voilà, là c'est du français. On a une autre représentation, une gravure, la ville de Naples avec le portrait au naturel de Masaniello, etc. Ça veut dire que l'information circule bien. On peut continuer. 1649, un an après la mise au pas du royaume de Naples écrasé par les troupes. Quoi, par les troupes, est-ce qu'il est écrasé? Je ne sais pas bien. De toute façon, une traduction d'un livre italien sur Naples, The Rebellion of Naples and the Tragedy of Masaniello. Et vous voyez le frontispice ici, parfaitement clair. Accapato est le péché et il va dans le filet. Et le filet, il est là. C'est normal. Masaniello, c'est un pêcheur. Il attrape dans les raies du filet la ville de Naples. Vous remarquez ici les bataillons des troupes espagnoles. Bon, on ne va pas faire les commentaires, ça prendrait trop de temps, mais comme quoi on a bien une diffusion en Angleterre. 1648 en Angleterre, c'est Cromwell. Le roi, Charles Ier, on lui a pas encore coupé la tête, c'est en janvier 49. Mais on est dans cette Angleterre de la Révolution aussi. Donc les images révolutionnaires circulent dans une Europe révolutionnaire. Ici, ça circule même aux Provinces-Unies. Un exemple. Le Wunderreichen, bon, on va arrêter là. Vous m'avez compris. Une image tirée d'une traduction d'un ouvrage qui raconte les événements de Naples aux Provinces-Unies, la date 1650. C'est quasiment de l'actualité. D'accord? On est présent ici. Je ne résiste pas non plus à parler tout de même de la postérité scénique de Masaniello. Il y a toute une postérité. Très rapidement, on fait des pièces de théâtre sur Masaniello. Et entre autres, pas tellement en Italie, surtout en Allemagne, où on a dès 1683, alors pourquoi des Allemands vont s'intéresser à un pêcheur napolitain qui apprenait la révolte? Ne me posez pas la question, mais du moins on trouve, je ne sais pas si je vous ai marqué le nom, non, c'est pour après, donc un dénommé Christian Weise, Trauerspiel vom Neapolitanische Hauptrebellen Masaniello, tragédie du chef rebelle Masaniello, paru en 1683. 25 ans plus tard, on fait un opéra, un dénommé Reinhard Kaiser fait un Masaniello Furioso, sur le modèle du Roland Furieux, d'accord? Donc tout le monde voit à peu près ce qu'on fait. Et puis, début 19e siècle, on continue d'être à la mode, il y a un dénommé Auber, tout le monde connaît la station de métro, bien entendu. Auber, en réalité, c'est un compositeur de musique. Quand vous allez devant l'opéra, vous voyez Scribe et Delavigne. Scribe et Delavigne sont deux librettistes qui ont écrit pour Auber la muette de Portici. Si vous connaissez les Naples un petit peu, Portici, c'est juste à côté. La muette, c'est la femme de Masaniello. Donc, et on a tout le drame Masaniello. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette pièce de théâtre d'Auber est représentée à Bruxelles, le 4 octobre 1830, un moment, Scribe a écrit « Amour sacré de la patrie, rends-nous l'audace et la fierté ». Que font les Belges? Les Belges qui sont dans un royaume forcé avec les Provinces-Unies, avec les Pays-Bas, eh bien, ils sortent dans la rue et ils continuent à crier « Amour sacré de la patrie, et ils s'affrontent aux forces de l'ordre. Et c'est le début de la Révolution belge. Donc, ça veut dire que 200 ans après, on a encore une charge, alors je dirais pas sacrale, ni iconographique, mais révolutionnaire, dans l'œuvre qui succède à Masaniello. Alors, pour terminer, parce que j'ai été trop long, sur le romantisme, Masaniello fait toujours recette. Alors là, c'est moins du romantisme. Gaetano Duras, 1850, c'est le début du Risorgimento, c'est vrai. Mais il s'inspire directement de Delacroix, 1830, La liberté guidant le peuple. J'insiste pas, on pourrait comparer avec les tableaux de l'époque, on le retrouverait. Et puis, cette perle, est-ce que c'est une perle, je ne sais pas bien. Du moins, cette peinture de Joseph Turner, qui a fait l'objet d'une rétrospective l'an passé, je crois, ou il y a 2 ans à Paris. Est-ce que Turner, c'est un impressionniste, un symboliste? Je ne sais pas bien. Du moins, c'est un nom figuratif. Comment intitule-t-il son tableau? Ondine, donnant l'anneau à Masaniello, pêcheur napolitain. Et il fait le lien, ici, Turner, entre le fantastique, le magique, l'historique, le religieux. Et la figure d'Ondine, c'est une figure magico-romantique qu'on retrouve fortement au cours du 19e siècle ici. Et puis pour conclure, je voudrais juste conclure sur les mythologies qui se créent à partir de l'image des révolutions, ou du moins de ceux qui créent les images, puisque à partir du 18e siècle, on va voir circuler l'information comme quoi il a existé une compagnie de la mort, avec un M majuscule. Cette compagnie de la mort, c'est décrit par un historien, ceux qui font les vies des peintres, Vite dei Pittori, tout ça, et un dénommé Bernardo de Dominici. Et Bernardo de Dominici, dans sa vie des peintres, nous dit qu'un dénommé Agnello Falcone, c'est un petit maître lui aussi, c'est quand même pas mal coté, un petit Agnello Falcone en ce moment, ça se vend à la Gazette de Drouot, c'est du 20-30 000 euros, c'est pas mal quand même. Bon. Donc Agnello Falcone, petit maître, aurait fait partie de la Révolution, aurait eu des parents tué lors de la Révolution, et ce serait dédié à diffuser, à venger cette Révolution. Et il aurait créé une compagnie de la mort en compagnie d'autres peintres, Andrea De Leone, même chose, petit maître non négligeable quand même. Il y aurait eu encore d'autres, comme Mico Spadaro, dont je vous ai déjà parlé, Carlo Coppola, dont vous avez vu une peinture, Andrea, etc., etc. Cette compagnie de la mort, elle est réactivée au début du 19e siècle. Vous allez me dire comment? Une suite? Pas du tout. En réalité, c'est qu'on voit que les romantiques s'emparent de la figure du peintre comme acteur de la Révolution. Et on va avoir toute une aura, une nébuleuse, autour du peintre artiste révolutionnaire, et on va plaquer les schémas du début du XXe siècle autour de cette pseudo-compagnie de la mort. Depuis, il a été démontré qu'il n'y a pas eu de compagnie de la mort, qu'il n'y a jamais eu de cette compagnie peintre. Par contre, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a eu autant de peintres, effectivement, à se dédier à représenter cette révolution. En revanche, ça fait l'objet d'un roman. Lady Morgan, Sidney Owen, a réalisé un roman autour de l'un des acteurs, Salvatore Rosa. Au XIXe siècle, ça a représenté de nombreuses fois. Salvatore Rosa est un peintre napolitain du XVIIe. On lui attribue nombre de vertus révolutionnaires, quasiment comme on attribue aux images une vertu, un vrai potentiel. Pour conclure, 3 points. Premier point, la plupart des peintures ont été perdues. Ce que je vous ai montré, c'est une goutte d'eau dans un océan, très certainement. On le sait. On connaît des noms de familles qui ont des peintures de l'époque, qui possèdent des Masaniello. On sait qu'il y a des fonctionnaires espagnols qui ont envoyé des gravures, des peintures en Espagne. Elles sont perdues. Des pistes à reconstituer qui posent problème. Deuxième remarque, la comparaison avec les autres mouvements révolutionnaires souligne quand même un énorme poids de l'iconographie, je crois, dans la révolte napolitaine. C'est lié en grande partie à la spécificité du milieu napolitain, me semble-t-il, alors que pour les révoltes siciliennes, portugaises, catalanes, je ne connais strictement rien. Troisième élément, qui est la chose la plus surprenante, c'est que ces peintures ont fait l'objet de collections quand même. Un certain nombre d'entre elles ont été collectionnées. Et on sait que ça a été collectionné par des aristocrates. C'est-à-dire qu'il y a quasiment un collectionnisme morbide de la part d'un certain nombre d'aristocrates. J'imagine mal Louis XVIII collectionner le portrait de Samson, d'accord? Bon, on le voit très mal. Et pourtant, ça existe. Malheureusement, on est incapable de faire l'affiliation. Du moins, j'ai demandé les numéros d'inventaire et de comment c'est arrivé dans les musées. On n'en a aucune idée. Et puis, puisqu'il y avait 3 points, j'ai terminé mon troisième point, donc une annexe, puis je me tais après, c'est promis. Juste, la représentation des événements historiques contemporain n'existe pas avant Goya et David. Il n'y a pas de peinture d'histoire, du moins c'est ce que nous disent les historiens de l'art, je pense à Francis Haskell principalement. Ce qui m'étonne, c'est qu'à Naples, là, on fait de la peinture d'histoire. Le but, c'est une identification, et c'est ça qui m'a surpris le plus dans ces peintures, dans ces images, dans ces allusions aux peintures. Voilà.